Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdedaïm, notre globetrotter, vous allez voir, il a encore une moisson de travaux, d'études venues du monde entier qui est assez remarquable. Et puis évidemment Stéphanie Collot, notre bibliothécaire, qui nous parlera du bonheur cette semaine. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Mais comment avons-nous pu collectivement laisser se lézarder de toutes parts le meilleur système de santé du monde? Pourquoi l'hôpital est-il en train d'imploser? Pourquoi les Français sont-ils de plus en plus mal soignés? À qui la faute? Et surtout, comment le remettre sur les bons rails, notre système de santé? Réponse avec nos deux invités. Bernard Granger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité. Vous êtes responsable de l'unité de psychiatrie de l'hôpital Cochin. Vous racontez dans votre livre Le quotidien de l'hôpital, Excel Mathué. C'est publié chez Odile Jacob, La vie quotidienne kafkaïenne à l'hôpital. Thomas Barnet, bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel, bonjour
Thomas,
à tous.
Vous êtes professeur d'économie de la santé à l'université Paris Est Créteil. Vous êtes vice-président du Collège des économistes de la santé et vous avez piloté avec d'autres de vos camarades l'ouvrage collectif Le système de santé français aujourd'hui aux éditions ESCA, une trentaine de contributions donc d'économistes de la santé. On commence avec vous, Bernard Granger. Alors, pour donner le ton de votre livre, vous commencez en racontant ce que j'appellerais la saga du trou dans le mur pour faire passer le fil de la photocopieuse.
Oui, alors c'est une histoire vraie, bien entendu. Et quand je la raconte, comme je le fais dans cet ouvrage, ceux qui connaissent le système hospitalier ne sont pas étonnés et considèrent même que 3 ou 4 mois pour avoir un trou dans une cloison, c'est rapide.
D'accord.
Alors que si on fait ça chez soi, en 5 minutes, c'est plié. Et si vous voulez, ça...
Donc il a fallu 3 ou 4 mois pour avoir l'autorisation de faire ce trou dans le mur?
Ah non, pas l'autorisation. Pour que le trou soit effectivement réalisé. Mais il a été effectivement réalisé par des personnes qui n'étaient pas du tout destinées à le faire. C'est le système D qui a permis qu'enfin on puisse percer un trou dans une cloison parce que précédemment, il fallait des autorisations, des procédures, il y a eu des erreurs, il y a eu 3 services qui ont été mis à contribution. Enfin, c'est grotesque.
Vous dites que la plus belle réussite de la bureaucratie, c'est son aptitude à dilater le temps. C'est-à-dire, ce qui prendrait 1 heure dans la vraie vie prend 3, 6, 12 mois.
Oui, oui. On dit que pour Dieu, 1 jour, c'est 1000 ans. La bureaucratie n'en est pas encore arrivée là. Néanmoins, je cite un chiffre aussi pour l'Hôtel Dieu, le nouvel Hôtel Dieu, qui est un projet intéressant d'ailleurs, devait ouvrir en 2020.
Ouais.
Et pour l'instant, on parle de 2024 dans le meilleur des cas, ou 2026 même. Donc. Et pas pareil pour l'hôpital Nord qui est prévu depuis très longtemps et qui a déjà pris plusieurs années de retard.
Alors, je reprends quelques exemples. Obtenir un dictaphone, par exemple, qui est votre outil de travail quotidien.
Oui, alors si j'allais à la FNAC, je travaille pas très loin de la rue de Rennes, ça serait fait en 1 heure, mais là, il a fallu plusieurs mois. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas quels sont les interlocuteurs valables.
Alors justement, comment en fait la bureaucratie a-t-elle envahi à ce point l'espace de l'hôpital?
Bon, il n'y a pas de réponse simple à votre question. D'abord, la bureaucratie a par essence tendance à envahir tous les endroits où elle se trouve. À l'hôpital, c'est très frappant. Là, je fais un travail de recherche historique sur comment était l'hôpital dans les années 60-70. L'administration était vraiment réduite à peu de choses, mais était efficace. Dernièrement, j'ai fait une partie de ma carrière à l'hôpital Necker. Il y a une partie d'hôpital Necker qui s'appelle le Carré Necker, où il y avait des services de médecine, de cardiologie en particulier, ou de dermatologie. Actuellement, c'est envahi par des bureaux avec des intitulés d'ailleurs assez abscons. Et cet envahissement, il est concret. Et des bureaux d'ailleurs à moitié vides. Enfin, c'est impressionnant de voir comment la géographie de l'hôpital d'ailleurs s'est réduite. On a supprimé des lits, mais on a augmenté les bureaux.
Vous utilisez la métaphore du bateau de rameur. Vous dites le bateau rame pas assez vite. Alors en fait, on supprime un rameur pour remplacer par un coach. Voilà. Pour les rameurs. Et puis encore, ça n'avance pas assez vite. Donc on va encore remplacer un rameur par un autre coach. Mais Bernard Granger, quand est-ce que ça a commencé à dériver? Vous dites dans votre livre, il y a trois âges de l'hôpital. Il y a l'âge médical, l'âge des tableaux d'activité, et maintenant on est dans l'âge des fermetures de lits.
Quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital public comme interne, au début des années 80, les préoccupations médicales prenaient le pas sur tout le reste. On cherchait à développer les services, on cherchait à ce que le progrès médical soit accessible au maximum de malades. Et puis petit à petit, les dépenses de santé augmentant de façon importante, les pouvoirs publics se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour limiter la croissance des dépenses de santé. Et petit à petit, les considérations financières ont pris le pas sur les considérations médicales. Et actuellement, l'horizon du dirigeant hospitalier, c'est d'équilibrer son budget. L'horizon du médecin, c'est notre éthique de soins, c'est de soigner les malades.
Justement, Bernard Granger, qui est le patron à l'hôpital? Qui dirige aujourd'hui?
Je dirais que c'est la finance, c'est la comptabilité. C'est-à-dire que le grand tournant, je crois, et moi, quand j'ai lu le projet de loi, mon sang n'a fait qu'un tour, c'est la loi HPST de Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, où là, le président Sarkozy avait dit il faut un seul patron à l'hôpital, et ce patron, c'est le directeur. Et puis surtout, la loi a été faite pour que les activités puissent être supprimées s'il fallait supprimer, pour que des lits puissent être supprimés s'il fallait supprimer, avec l'objectif de tenir les dépenses. Mais on ne peut pas à la fois bien soigner et tenir les dépenses en faisant des restrictions qui ont beaucoup porté sur le personnel soignant et sur le nombre de lits. On voit aujourd'hui qu'on a été beaucoup trop loin dans cette politique de restriction au nom de diminuer les dépenses, et que d'une part, il faut comprendre que les dépenses de santé augmente, et ça on peut pas faire autrement, c'est mécanique, dans le sens où les soins sont de plus en plus techniques et où ce sont des métiers humains, où on ne peut pas remplacer les humains par des robots.
Et vous dites c'est là que progressivement, finalement, au fil du temps, le pilotage par objectifs, tableau de bord, etc., c'est plus qu'imposé, c'est-à-dire il a complètement tout envahi, et il a détruit, vous dites ça a détruit la recherche à l'hôpital, vous dites ça nuit aussi à la qualité des soins.
Bien sûr, ça nuit à la qualité des soins. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais à une réunion, j'y allais peu, mais ça m'arrivait, d'une réunion de pôles. Les pôles, c'était des regroupements de services. Puis on nous présentait des tableaux, uniquement des tableaux d'activité, et vous aviez les services qui étaient en rouge parce qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif, les services qui étaient en vert parce qu'ils avaient atteint leur objectif, objectif d'ailleurs défini de façon totalement arbitraire. Et j'ai levé le doigt et j'ai dit, mais qu'est-ce qui me prouve que ces personnes ont été bien soignées? Alors là, silence dans les rangs. Pourquoi? Parce que on se fixe des objectifs d'activité et on est allé vers une médecine d'abattage, déshumanisée. Et c'est pour ça d'ailleurs que les soignants fuient l'hôpital. Ils disent on n'a plus le sentiment de bien faire notre travail. Pourquoi? Parce que on est fixé sur le nombre de séjours à faire, le nombre de consultations à faire. Travailler vite et mal. C'est malheureusement ce à quoi on en arrive aujourd'hui.
Alors, quand on lit votre livre, on se dit mais parce que cette bureaucratie, elle est quand même incarnée par des gens. Mais souvent, ce sont des gens sans visage. J'ai envie de dire, quand on dit les bureaucrates, mais qui sont ces gens en fait? Ils ont été formés où? Comment ils ont été recrutés? Et quel est leur objectif en fait? Pourquoi? C'est quoi leur motivation?
Leur motivation, c'est leur carrière. C'est-à-dire que des dirigeants d'hôpitaux essaient d'être bien notés pour avoir un meilleur poste, pour faire une belle carrière, et ils reçoivent des primes en fonction de leurs résultats financiers. Mais eux, ils sont à la fois les acteurs et les victimes de ce système, parce que soit ils démissionnent et ils font autre chose, soit s'ils veulent rester dans cette carrière, ils sont obligés par le pouvoir politique, par les politiques technocratiques qui ont été décidées, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, ils sont obligés de faire cette politique comptable, mais contre laquelle les soignants alertent depuis des années et des années, sans avoir été le moins du monde entendu. À cause du Covid, ou grâce au Covid, on se disait, le monde d'après ne sera plus comme le monde d'avant. Eh bien non, l'épidémie est terminée.
Ouais.
Et on repart dans cette politique comptable.
Oui,
et d'objectifs d'activité.
C'est là où on voit aussi que les grands plans, le grand plan de 2018 qui était censé tenir 50 ans, ça a tenu deux ans, quoi, grosso modo. Et on voit bien que c'est pas non plus que un problème de rémunération. Hein, c'est beaucoup plus parce que il faut que l'hôpital soit bien géré. On est d'accord, quand même.
Oui.
C'est pas moyen, c'est pas quoi qu'il en coûte non plus. Et donc, c'est quoi vos pistes de solutions par quel bout, faut-il prendre le problème?
Il y a évidemment plusieurs pistes. Il n'y a pas de piste simple. Il n'y a qu'à Faucon, ça. On trouvera toujours des gens pour vous expliquer par quelques mesures que tout va aller mieux. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'esquisse dans ce livre quelques pistes. La plus sérieuse, à mon avis, c'est celle de l'hôpital magnétique. On a étudié ce qui faisait que des soignants étaient heureux d'aller travailler, avaient des conditions de travail qui étaient satisfaisantes, où les soins étaient satisfaisants, où l'image de l'établissement, du coup, s'en ressentait favorablement. On connaît les caractéristiques de ces hôpitaux magnétiques. Il y en a plusieurs, à commencer par l'autonomie des équipes. Actuellement, il n'y a plus aucune autonomie. On a des gens au-dessus de nous qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Le management participatif, où chacun a son mot à dire. C'est fini le management où il y a
vertical.
Un seul chef vertical bonapartiste. Un ratio de soignants suffisant par rapport au nombre de malades, parce que si la charge de travail est trop lourde, d'abord on travaille moins bien, et puis au bout d'un moment on s'en va. Et quand on s'en va, la charge est encore plus lourde pour ceux qui restent, et c'est ce phénomène qui explique d'ailleurs la fuite actuelle des soignants. Toutes ces caractéristiques, il y en a quelques autres, peuvent être mises en place et ça ne coûtera pas forcément plus cher.
Ces hôpitaux magnétiques, mais ça existe en France, il y en a?
Oui, alors, on cite souvent l'hôpital de Valenciennes qui a essayé de mettre en perspective, en application ces principes avec un certain succès, et notamment en déléguant sur le terrain les responsabilités. Parce que un service est mieux à même de savoir ce qu'il lui faut, mieux à même de gérer le budget qu'il a à sa disposition pour faire les dépenses qui auront le meilleur impact.
D'accord. OK. Eh ben, on va voir avec maintenant Thomas Barnet. Thomas, j'aimerais quand même avoir votre diagnostic à vous. Alors, pas du côté du praticien, mais du côté de l'économiste de la santé. Quand même, le cas de l'hôpital. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau, finalement, d'asphyxie?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a ce fameux virage ambulatoire, la volonté de contourner la prise en charge hospitalière classique, qui était lourde en termes de soins, pour aller vers une prise en charge plus légère, l'hôpital à la journée. Et donc ça s'est traduit par une accélération de phénomènes de rationnement, de concentration de l'activité hospitalière, qui se sont pas toujours faits dans un objectif de réduction des inégalités d'accès aux soins, pour le moins. Et donc le critère de déficience auquel on est tant attaché en économie n'a évidemment pas été un objectif suivi. On a une baisse de 5% du nombre d'hôpitaux publics, par exemple, entre 2013 et 2019. On aime bien faire des comparaisons avec l'Allemagne, et aujourd'hui, on a 6 hôpitaux pour 1000 habitants en France, c'est 8 en Allemagne.
D'accord.
On a une durée moyenne de séjour plus importante en Allemagne. Donc il y a ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est évidemment la contrainte financière, et je rejoins vraiment les propos précédents. On a une logique comptable qui n'est pas une logique économique, qui n'est pas une logique d'efficience, qui est purement comptable, et donc qui fait beaucoup de mal évidemment au système. Fameux ONDAM hospitalier, il est très strict. Il y a peu de latitude, et en plus il est sous-exécuté, c'est-à-dire que ce qu'on donne à l'hôpital finalement abonde des réserves qui permettent in fine de réussir à respecter l'ONDAM global. Ouais.
Alors Thomas,
la tarification,
Allez-y, terminez, pardon.
Dernier élément, enfin deux derniers éléments rapidement, la tarification à l'activité, évidemment introduite en 2004, qui a poussé les hôpitaux à faire plus d'actes et à cibler les actes les plus valorisés. Et puis le dernier élément, on vient d'en parler, c'est les incitations et les motivations des personnels pour bosser à l'hôpital public. On le sait depuis longtemps, en plus, hein, depuis les travaux qu'on a en 2016, on sait que à l'hôpital public, c'est là qu'on a le plus de conflits de valeurs, de perte de sens au travail, de risques psychosociaux au travail. Donc ça, c'est la motivation un peu intrinsèque du boulot. Et puis, du côté de l'attractivité financière, ben, on sait que le salaire des infirmières, c'est à l'hôpital en France, c'est parmi les plus faibles des pays de l'OCDE.
Alors, Thomas Barnet, je vous ai lancé sur l'hôpital parce que c'était notre accroche du jour, mais en fait, votre ouvrage sur, le système de santé français aujourd'hui, il est beaucoup plus large hein, comme champ de recherche. Vous faites un diagnostic assez sévère et vous dites en fait la promesse du système de santé français de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, aujourd'hui elle n'est plus tenue au vu des inégalités notamment en termes de santé et de mortalité.
Bah, c'est vrai que la promesse d'après-guerre, elle est ce fameux contrat social, il est fragilisé à notre avis de deux manières, la concentration de l'assurance maladie obligatoire sur ce qu'on appelle vulgairement le risque lourd, c'est-à-dire les personnes qui souffrent des maladies chroniques les plus longues et les plus coûteuses, les personnes qui sont donc en affection de longue durée, et puis sur l'hôpital, puisque 90% des dépenses à l'hôpital sont remboursées par la Sécu. Par ailleurs, il y a la montée en charge des financeurs privés, qui couvrent plus de 95% de la population, et qui répondent à des logiques qui sont évidemment différentes de celles qui prévalent pour l'assurance maladie. Donc, quand on regarde le contrat de chacun selon ses moyens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a une solidarité des hauts vers les bas revenus.
Ouais.
Quand on regarde de ce point de vue-là, la Sécu joue son rôle pleinement parce qu'il y a des inégalités sociales de santé qui sont très fortes, très corrélées aux revenus. Et du coup, la Sécu joue ce rôle de redistribution des hauts vers les bas revenus. Mais l'assurance complémentaire, par principe, n'est pas solidaire et s'avère même régressive. Quand on regarde le taux d'effort, c'est-à-dire ce que vont consacrer les ménages au reste à charge ou à la prime d'assurance complémentaire, il est beaucoup plus élevé chez les ménages les plus pauvres que chez les plus élevés, quoi.
Alors, à vous lire, presque tout est à rebâtir. J'ai envie de dire, alors je caricature un peu le propos, mais vous dites, il faut rebâtir l'accès aux soins primaires sur tout le territoire, il faut revenir sur le manque de coordination entre médecine de ville et hôpital. Il faut aussi corriger le déficit de prévention, l'invisibilité de la santé publique. Ça fait quand même beaucoup de chantiers.
Ça fait beaucoup de chantiers, mais on a un système de soins. On n'a pas un système de santé, en fait. On a un système de soins qui est très centralisé, qui reste hospitalo-centré et qui était spécialisé dans la prise en charge des maladies chroniques. Et donc, en termes d'accès aux soins primaires, en fait, c'est une question qu'on n'a pas du tout mis au cœur de notre système. On commence un petit peu à mettre en place des dispositifs depuis 20 ans. Et il faut aller vite parce qu'aujourd'hui, on a 30% de la population française qui réside dans des territoires sous-dotés à des soins de services de premier recours, dont la médecine générale. On était à 8% en 2012. On a beaucoup moins de médecins pour 1000 habitants que précédemment. Et du coup, il y a urgence. Et donc, dans les solutions qui ont été mises en place, les incitations financières à l'installation ne fonctionnent pas. La formation, si on augmente le nombre d'étudiants, ça va fonctionner, mais il faut un délai évidemment pour former les jeunes médecins. Donc, on a des évaluations sur des mesures incitatives non monétaires pour essayer, par exemple, de promouvoir des nouveaux modes d'organisation, comme les fameuses maisons de santé pluriprofessionnelles. Il y en a 1600 en 2021. C'est plus attractif pour les médecins, les revenus sont supérieurs. Donc c'est un outil, ça suffit pas évidemment. Un deuxième outil, ce serait mettre en place des mesures un peu plus coercitives. Par exemple, des désincitations pour s'installer au moins dans les zones qui sont déjà surdenses. De pallier un petit peu cette inégalité d'offre de soins sur le territoire.
Sauf qu'on retrouve en médecine de ville toute la bureaucratie qu'on a évoquée tout à l'heure à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins en ville sont aussi totalement découragés par le fait qu'ils passent la moitié du temps à remplir des dossiers et pas à faire leur travail de médecin.
À l'évidence, et c'est pour ça que ce type de structure permet aussi de libérer du temps médical. Évidemment, qu'il y a un enjeu crucial.
Thomas, autre enjeu crucial aussi que vous explorez en profondeur dans votre ouvrage collectif, la réflexion sur les modalités de rémunération. Vous dites les modalités de rémunération traditionnelles liées à l'activité, il faut les transformer, paiement à l'activité des médecins libéraux, tarification à l'activité dans les hôpitaux, et vous proposez une nouvelle architecture, vous, du financement des dépenses de santé.
Ce qu'on se dit que collectivement, c'est que déjà la logique centralisée fonctionne pas. Il faut donner les moyens à des structures qui soient plus locales, peut-être infra-régionales, comme un peu ce qui se fait dans les modèles britanniques ou américains. On va pouvoir définir un budget santé par rapport aux besoins de la population locale. On a des éléments là-dessus. On a la consommation de soins. On sait, alors c'est une approximation du besoin, mais on sait que l'état de santé dans certaines régions, dans certains départements, est différent parce que la population est plus vieille, etc. Elle a plus de besoins. Donc on devrait évidemment arriver à une logique beaucoup plus décentralisée, peut-être casser la segmentation des objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie qui sont cloisonnés soins de ville, établissements de santé. Et puis effectivement, inciter, on est sur un modèle où on a le paiement à l'activité pour les médecins ou la tarification à l'activité pour les hôpitaux qui ont montré leurs limites. Donc les études le montrent très clairement, il faut diversifier les modalités de rémunération, mettre de l'incitation au travail en équipe, ce qui est une aspiration en plus des jeunes médecins à travailler. On sort un petit peu du cadre du médecin qui faisait 60 heures seul dans son cabinet, à des aspirations où la qualité de vie joue aussi un rôle. On veut travailler un petit peu moins, plus en équipe. Donc il faut qu'on mette davantage d'incitation au travail en équipe avec des objectifs de qualité et de suivi du patient.
Alors justement, vous parlez d'objectifs ambitieux. Vous dites qu'il faut définir une stratégie de santé publique qui aille vers ce que vous appelez le One Health, une santé. Ouais, alors, ça veut dire quoi? C'est quoi ce principe?
C'est un terme un petit peu pompeux, mais ça renvoie en fait, ce terme de One Health, il renvoie traditionnellement à une approche un peu holistique de la santé, où on se dit que les interactions sont importantes entre santé humaine, santé animale et écosystème. Et évidemment, ça entre en résonance avec la crise Covid-19, où la santé humaine, elle est finalement plurifactorielle. Elle ne relève pas que du soin, mais aussi de tout un tas de déterminants sociaux et environnementaux, et qui requiert donc des actions qui prennent en compte tous ces facteurs-là et qui agissent de manière transversale, par exemple entre les différents budgets ministériels, pour vraiment considérer que l'état de santé doit être finalement un bien public qui soit un objectif de... Alors, un objectif plus global. Alors,
Thomas Barnet, moi j'ai une question et j'aimerais aussi que Bernard Granger y réponde. Tous ces diagnostics, vous les partagez bien avec les décideurs. Thomas Barnet, on vous écoute quand même, vous les économistes de la santé. Est-ce qu'on peut espérer que ça bouge dans combien de temps et combien de temps va encore continuer le déclin et quand est-ce qu'on peut espérer retrouver un système de santé aussi formidable que celui qu'on avait il y a 40 ans? Bernard Granger.
Écoutez, actuellement, on assiste quand même à l'hôpital à une forme d'effondrement. Je ne sais pas si cette destruction va permettre une reconstruction sur des bases totalement différentes, mais je crois que c'est soit des événements comme on les vit actuellement, qui sont quand même assez tragiques, ouais, pour la prise en charge des patients, soit l'obtention par la force, par la rue, des soignants, les médecins, etc., pour que, en effet, tous les principes qui sont actuellement à l'œuvre et qui viennent d'être si bien décrits à l'instant, ne soient modifiés.
Donc vous ne croyez pas à une réforme sereine et apaisée, quoi?
Non, parce qu'on l'attend depuis très longtemps et on ne la voit jamais venir.
Ok. Thomas Barnet.
Je partage malheureusement le diagnostic. Les économistes de la santé sont finalement très peu écoutés. Dans le comité scientifique Covid-19, il n'y a pas un seul économiste, hein, par exemple. Donc, je pense qu'aussi, à la lumière malheureusement des conséquences terribles de cette pandémie, j'espère qu'on va considérer que la santé est un bien public et qu'il faut écouter aussi les... On aime bien s'intéresser aux préférences. Qu'est-ce qu'on souhaite globalement? C'est quoi le niveau de dépenses de santé qu'on est prêt à mettre pour protéger notre santé? Ouais. Sachant que la nôtre est directement corrélée à celle des autres et que du coup, cette socialisation, elle a du sens. Notamment quand on est sur ce type de maladie contagieuse. Donc le fait d'être infecté dépend aussi du comportement des autres. Donc, difficile de répondre à votre question, mais j'espère que ça peut passer par la citoyenneté, par l'engagement aussi des patients.
Eh ben nous voilà avertis, prévenus et puis inquiets. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bernard Granger. Je rappelle votre livre Excel m'a tué chez Odile Jacob. Thomas Barnet qui a piloté ce formidable état des lieux réalisé par les économistes de la santé. Ça s'appelle Le système de santé français aujourd'hui. Et je le rappelle, Thomas Barnet, vous avez raison, les économistes ne sont pas des comptables. Voilà.
Merci Emmanuel.
C'est dit, et c'est aux éditions SK. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdedaïm qui nous fera sa dernière moisson d'études glanées dans le monde. Et puis Stéphanie Colo, notre bibliothécaire qui nous parlera du bonheur aujourd'hui. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, L'or de la guerre froide par Arnaud Manas aux éditions du CERF.
Alors, c'est un livre qui m'a beaucoup amusé en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. Arnaud Manas est le directeur du patrimoine et des archives de la Banque de France. Donc il s'est amusé à aller plonger dans les relations entre la Banque de France et l'or, en gros entre 1940 et les années 60.
D'accord.
Donc bien évidemment, il y a des choses qu'on connaît déjà. La Banque de France, quand Banque de France voit arriver les nazis et Vichy, va planquer l'or à l'extérieur. On se retrouve après la guerre et la France doit se reconstruire. Achète beaucoup aux États-Unis. Petite anecdote parmi des dizaines d'autres qu'il y a des petites histoires qu'il y a dans ce livre. La France détient des pièces de dollars, des 10 dollars et des 20 dollars en or. Or, aux États-Unis, si vous avez une pièce de 10 dollars, vous pouvez acheter que 10 dollars, alors que le prix de l'or a monté, ça vaut beaucoup plus. Vous avez cette petite histoire où la France rapatrie ses pièces de 10 et 20 dollars en or des États-Unis, les fond, les met en lingots et les renvoie aux États-Unis pour payer ses importations. C'est rempli de petites histoires comme ça.
On a le droit de détruire de la monnaie comme ça?
Écoutez, c'est ce qui s'est fait en tout cas. Vous avez aussi une autre chose. Il y a dans les années 50 une forte demande de Napoléon en or. Et la Banque de France voit que Napoléon prend un peu de la valeur. Donc il décide, on le saura qu'au milieu des années 70, de refrapper des Napoléons pour pouvoir les utiliser, sorte de vrais faux Napoléons qui ont été faits par la Banque de France. Donc vous avez plein de choses comme ça. On a peur que les Russes nous envahissent en pleine guerre froide. Et donc la Banque de France va répartir un petit peu de son stock d'or partout sur le territoire au cas où les Russes arrivent pour que la résistance puisse aller chercher l'or et se financer contre l'envahisseur. C'est rempli de petites histoires comme ça, absolument impressionnantes. Et puis bien sûr, il y a le grand affrontement entre la France et les États-Unis. On ne pouvait pas passer à côté, bien sûr. Et là, donc, on se retrouve avec dès 1963, donc De Gaulle revient au pouvoir d'abord, et puis il s'aperçoit qu'une partie du stock d'or a été placée à l'étranger. Mais Oran, Brazzaville, tout ce qui était aux États-Unis, au Royaume-Uni, il reste. Et le reste est dans l'Empire colonial. Or, quand De Gaulle revient en 58, c'est le début de la décolonisation. Revenir l'or déjà des anciennes colonies, des futures anciennes colonies. Et puis arrive bien sûr l'affrontement entre les États-Unis et De Gaulle autour de l'or. Donc en 1963, la Banque de France lance l'opération Vide-Gousset, absolument magnifique comme nom, rapatrier l'or qu'il y a aux États-Unis. Donc d'abord par bateau, puis De Gaulle trouve ça va pas assez vite, donc par avion. Donc il va falloir plus d'une vingtaine de vols, parce que l'or ça pèse. Donc il va falloir plus d'une vingtaine de vols pour ramener sur des Boeing d'Air France les stocks d'or qu'on avait aux États-Unis pour les ramener en France. Bien sûr, il y a la célèbre conférence de presse de De Gaulle en février 65 qui dénonce le pouvoir du dollar et puis dit qu'il faudra un système instauré sur l'or. Il se trouve qu'une quinzaine de jours après va sortir en France le nouveau James Bond, Goldfinger, Henri Goldfinger, qui veut complètement rendre inutilisable le stock d'or des États-Unis et parce que lui il a l'or, donc ça va faire monter le prix. Et bien évidemment, 15 jours après, dans la presse anglo-saxonne, De Gaulle devient Goldfinger. Voilà. Et donc c'est l'essentiel. Il y a deux autres petites parties à la fin qui partent un peu dans tous les sens. Il reste quelques petites anecdotes sur Fornox. Si vous savez comment est organisé Fornox, là où il y a les réserves d'or des États-Unis, vous apprendrez des choses. Et dernière petite anecdote, en 66, la Banque de France a fait demander à des scientifiques de faire établir les coordonnées géodésiques du stock d'or. Parce que si tout est détruit, si les bâtiments sont détruits, il faut quand même qu'on puisse retrouver où est l'or de la Banque de France. Donc voilà, c'est rempli d'anecdotes. Moi, je me suis beaucoup amusé à lire ce
Jean-Marc
livre.
Daniel.
Oui, c'est rempli d'anecdotes, mais hélas, c'est un peu décousu par rapport à toutes ces anecdotes. Oui. Parce que je peux en rajouter par rapport à celles que vient de citer Christian. Moi, il y en a une que je rajouterai en complément, mais je ne vais pas revenir sur celle qu'il a donnée. Mais c'est le fait qu'à Beyrouth, il y a les souverains britanniques qui sont des pièces en or. Et suivant le roi, il y a tantôt la reine Victoria, tantôt George VI ou George V. Ouais. Et alors, quand c'est la reine Victoria, à Beyrouth, ça vaut moins cher. Parce que c'est une femme et qu'il y a toute une partie de la communauté locale qui considère que comme c'est une femme, forcément, ça vaut moins cher. Donc, il y a des anecdotes comme ça qui sont des anecdotes assez piquantes. Il y a une tentative quand même d'explication économique autour de cette évolution du stock d'or. Ce qui montre bien, c'est qu'à l'époque, le stock d'or, c'est la référence monétaire ultime. Donc, vous accumulez de l'or si vous avez des excédents de balance des paiements courants et vous en perdez si vous êtes en déficit. Donc, les États-Unis le perdent parce qu'ils sont en déficit. Et les pays européens et le Japon sont en excédent. Et il y a deux ou trois réflexions sur le fait qu'en fait, il y avait une sorte d'accord qui avait été fait après la Deuxième Guerre mondiale entre les vaincus et le vainqueur. Les vaincus ne pouvaient pas avoir d'armée, donc ne pouvaient pas se défendre. Et donc, les vaincus fournissaient la consommation courante des Américains et le vainqueur assurait la sécurité de l'ensemble. Sauf que la consommation, ça a un prix. On peut dégager des excédents. La sécurité, ça n'a pas de prix. Et donc, les Américains ne pouvaient pas faire financer leur effort par les autres pays. Et donc, les Américains ont couru pendant toute cette période après les autres pays en leur disant, il faut payer, il faut que l'OTAN soit beaucoup plus équilibré dans son mode de financement et tout ça. Et je trouve cette réflexion assez intéressante. Alors là où je rejoins aussi Christian, il y a trois parties. Il y a une partie qui s'appelle politique, et la dernière partie s'appelle symbolisme. Alors là, c'est un peu délirant. Faut dire ce qui est.
Ben, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que vous
C'est le rapport à l'or, la façon dont l'or est effectivement est fantasmé par certains pays. Pourquoi les Américains n'ont pas le même rapport à l'or que les Européens? Il y a une dimension, je dirais, presque religieuse dans la façon symbolique, dans la façon dont ils parlent de l'or. Et c'est un peu effectivement décalé par rapport aux deux autres parties sur la politique, sur le général de Gaulle, effectivement, sur Goldfinger et sur le déséquilibre de la balance des paiement courant américain.
On passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. On repeuple les campagnes avec Henri Landès aux éditions de l'Observatoire.
Voilà, donc Henri Landès, c'est un chercheur intellectuel qui donne des cours à Sciences Po notamment, qui est né à New York et qui maintenant réside dans le Massif Central. Et donc il explique à la fois comment sur le plan pratique et puis pour des raisons théoriques, pourquoi il est allé s'installer avec son épouse dans le Massif Central. Donc le livre est construit en disant, mais si on fait ça, on va vous dire, en partant à la campagne, vous allez rencontrer des gens que vous ne comprenez pas. En partant à la campagne, vous allez perdre...
Vous retirez du monde.
Vous retirez du monde. En partant à la campagne, vous n'allez pas avoir les services que vous avez à la ville. En rentrant à la campagne, vous allez perdre tout un tas de réseaux, de relations. Et ça, il explique tout ça est faux. Et il dit, au contraire, à la campagne, on trouve à la fois de nouveaux types de relations. Maintenant, avec les relations qu'il y a au travers des réseaux sociaux, on peut être en contact avec la planète entière depuis. Ouais. Et la campagne, c'est un moyen, parce qu'on vit sur le plan local, avec des productions locales, c'est un moyen de favoriser la biodiversité. Alors, l'ensemble du livre, je dirais, c'est à mi-chemin entre Rousseau et Rousseau. Rousseau Jean-Jacques et Rousseau Sandrine. C'est-à-dire, il y a des éléments assez sympathiques qui rappellent un peu les rêveries du promeneur solitaire.
Ah, du coup, c'était Sandrine.
Ou les lettres de la montagne de Jean-Jacques Rousseau. Puis il y a d'envolées politiques, alors là, assez irritantes, entre guillemets, qui rappellent un peu Sandrine Rousseau. Le bilan final, c'est que c'est un livre que je recommande, mais qu'on oublie, je pense, assez vite. C'est un livre qui est très sympathique, mais quand même fondamentalement assez superficiel.
Ouais, mais le fait de donner une vision qui a quand même un peu plus proche du terrain, de la vision qu'on a de la campagne à la ville.
Oui, mais alors bon, il reconnaît bien qu'il y a des choses qui sont des choses qui le concernent plus personnellement. Il dit, écoutez, j'avais un appartement avec mon épouse de 40 mètres carrés à Paris, ça nous a permis d'acheter 3 hectares dans le Cantal, mais enfin, il faut avoir déjà l'appartement de 40 mètres carrés à Paris.
C'est pas faux. Christian Chavagneux.
Oui, c'est Jean-Marc Lally. C'est un livre globalement sympathique. Vous, les urbains qui pensez que si vous partez à la campagne, le monde va s'écrouler, bah non, moi je le vis au quotidien. Je vais vous dire que non, le monde, il est super parce qu'il est super pour votre santé. On vit beaucoup plus sainement à la campagne. C'est bon pour le climat, c'est bon pour votre travail. Il y a plus de sens dans le travail qu'on trouve dans les métiers que vous pouvez exercer à la campagne. C'est bon pour le climat parce qu'on fait du local, on fait de l'économie locale. Il rappelle cette statistique absolument incroyable, c'est que les grands centres urbains français achètent globalement leur nourriture de l'étranger pendant que les producteurs producteurs français vendent globalement leur nourriture à l'étranger. Donc il dit là, il y a vraiment des choses à faire. Il conteste la PAC, il conteste l'utilisation des glyphosates, c'est peut-être le côté Rousseau dont parle Sandrine, dont parle Jean-Marc. Donc il y a vraiment des choses très très fortes. Il faut vraiment que la campagne... Bon, tout ça est bien sympathique, mais alors bon, il y a deux, trois choses moi qui m'ont un petit peu quand même moins plu. C'est, je sais bien, je connais ce truc qui consiste à se mettre en avant soi-même et à se mettre en scène pour dire, voilà, si on parle de gens particuliers, bah, les lecteurs ils vont être un peu plus touchés que si on parle de choses en théorie. Bon, moi, les Claudine et Loulou, j'en ai... je trouve que c'était original il y a 15 ans. Aujourd'hui, je trouve que c'est ma subjectivité de lecteur. Hein. Nous parler de gens qu'on connaît pas, ça met plutôt de la distance plutôt que ça m'aide à rentrer dans le livre. Il y a un petit côté réac quand même, hein. Il y a un petit côté « la terre ne ment pas ». Hein, vraiment, quand on est dans la terre, quand on est avec ses bottes en caoutchouc et qu'on se promène à la campagne, qu'on est les bottes dans la glaise, vraiment, et qu'on répare ces trucs en bricolant, c'est ça la vraie vie. Bon, ça, je laisse ça à l'auteur. Et puis, il y a quand même une dernière petite chose qui est que on a l'impression que parce qu'il a fait, Jean-Marc l'a dit, il a grandi à New York et à Paris, et le voilà en pleine campagne, on a l'impression parce qu'il a fait ce cheminement qu'il est le seul à l'avoir fait. Je voudrais juste donner une référence, vous permettez, du livre d'un de mes collègues, qui s'appelle « La renaissance des campagnes ».
Oui, bien sûr.
Vincent Grimaud.
On l'a reçu dans la librairie.
Vous l'avez reçu dans la librairie, qui montre que il y a plein de choses qui se passent dans les campagnes, que c'est pas juste cet individu qui a décidé. Il nous présente ça un peu comme une décision extraordinaire, peut-être par rapport à sa propre vie, son propre parcours. Oui, mais il y a plein de gens qui font ça, que les campagnes, c'est aussi des lieux de production hyper innovants. En Savoie, Jura, parce que ça l'était avant, mais d'autres, les herbiers près d'Albi. Il y a moult exemples dans ce livre de Vincent Grimaud. C'est déjà les campagnes, quelque chose qui revit, qui est fort.
Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on retrouve Stéphanie Collo qui, comme Henri Landaise, va un peu nous parler de bonheur et de l'invention de l'indice du bonheur.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Alors Stéphanie, notre bibliothécaire d'habitude, elle nous fait voyager dans le temps, hein, dans le futur, dans le passé. Et là, nous voyageons presque dans l'universel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on ne peut pas dater vraiment, puisque vous nous parlez de cette notion insaisissable qu'est le bonheur.
Exactement. Et Pierre Leroy a tenté de répondre à la question, est-ce qu'on peut mesurer le bonheur finalement? Il tente d'y répondre depuis 2001. Il a créé...
Vous voyez, ça fait 20 ans qu'il essaie.
Il a créé l'indice mondial du bonheur qui viendrait compléter le calcul de la richesse mondiale, une sorte de PIB amélioré en quelque sorte.
Qui est Pierre Leroy, Stéphanie?
Alors, il est né en 1941, c'est le fils d'un paysan breton. Il est aujourd'hui chercheur indépendant, diplômé en lettres classiques, puis de Sciences Po Paris. Il intègre ensuite l'ENA. Il travaille au sein du ministère de l'Agriculture, en charge notamment de la PAC. Il est responsable du service agriculture au commissariat du plan de 79 à 83. Et c'est donc en 2001 qu'il crée l'indice du bonheur mondial. Il est publié tous les ans depuis donc 2001, initialement dans la revue Globe Echo. Et depuis quelques années sur son site internet.
Alors, quels sont les critères de son indice mondial du bonheur?
Alors d'abord, il s'appuie sur les données publiées par les organisations internationales, l'ONU, la Banque mondiale, l'OMS, mais aussi sur les organisations non gouvernementales comme le Reporters sans frontières. Il intègre au calcul quatre domaines, paix et sécurité, liberté et démocratie, la qualité de vie et la culture. Et il sélectionne aussi une quarantaine d'indicateurs, le taux de scolarisation, le nombre de morts violentes, les dépenses militaires, etc.
Alors, vous nous l'avez dit, il a commencé en 2001. Alors, qu'est-ce qu'on a c'est quoi la trajectoire de cette courbe du bonheur?
Alors, pour cette édition de 2021, il s'appuie sur les statistiques de 2019, donc ça ne tient pas compte des conséquences de la guerre en Ukraine et de la pandémie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que depuis l'an 2000, l'indice du bonheur mondial a progressé de 27%.
Voilà une bonne nouvelle.
Avec des progrès notables au niveau de la paix et de la sécurité depuis 2010, le potentiel nucléaire militaire a diminué considérablement. De plus de 15 000 ogives nucléaires en 2000, on est passé à 3 700 en 2019. Les dépenses militaires sont passées dans le monde de 2,6% du PIB en 2000 à 2,2% en 2019. Et les catastrophes naturelles ont aussi été moins meurtrières depuis 2010. Du côté des droits de la personne et de la démocratie, la situation s'améliore avec une augmentation du taux de femmes parlementaires, la baisse du taux de mortalité pour les enfants enfants de moins de 5 ans. En revanche, la liberté de la presse continue de s'aggraver. Et pour ce qui est de la qualité de vie, la tendance est à l'amélioration. Le PIB mondial en parité pouvoir d'achat est passé de 7 410 $ à 17 811 $. Mais il y a forcément des ombres au tableau. Le taux de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter et les surfaces forestières par habitant diminuent. Mmh. Et alors, autre point noir, le nombre de personnes déplacées qui avaient baissé entre 2000 et 2005 augmente sensiblement d'année en année, au point de figurer parmi les problèmes du siècle, hein, selon Pierre Leroy.
Qui sont les champions du monde du bonheur, Stéphanie ?
Alors, les champions du monde, les premières places occupées par les pays d'Europe du Nord, Norvège, Danemark, Suède, la France, c'est le mauvais élève de l'Europe.
Ah oui.
C'est le dernier pays d'Europe de l'Ouest dans le classement. Et parmi les pays les moins heureux, on retrouve la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Pakistan.
Oui, sans grande surprise. Merci beaucoup Stéphanie. On continue notre voyage à travers le monde avec notre globe-trotteur Belaouda Abdelhaïm.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'intéresse à la crise de la livre turque. Va-t-on vers un effondrement économique ou bien est-ce un nouveau modèle de développement ?
Oui, on a encore vu cette semaine le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, une fois de plus promettre de réduire les taux d'intérêt en dépit d'une inflation qui dépasse à présent les 70%. Et de nouveau, cela a provoqué des dégagements contre sa monnaie nationale. Le président Erdogan persiste, il faut selon lui mettre de côté les prescriptions imposées par les institutions financières impérialistes, je cite.
Ouais.
Alors, tout ce propos des experts du centre d'études Al Jazeera au Qatar, à Doha, l'avait analysé il y a quelques mois dans ce document, alors que le rythme de hausse des prix n'était alors que, entre guillemets, de 25%. Ils reviennent notamment sur la doctrine qu'a formalisée le principal conseiller économique de la présidence dans un texte intitulé « Un nouveau modèle économique », doctrine qui s'est imposée à la Banque centrale et au ministère des Finances. Cette doctrine veut que pour parvenir à l'indépendance économique nationale, il faut mettre en œuvre un modèle alternatif s'appuyant sur les capacités productives du pays. En cela, c'est le modèle chinois qu'il s'agirait de suivre. Taux d'intérêt bas, valeur attrayante de la devise et une activité aussi tournée vers l'exportation. La conviction fondamentale exprimée est que les Occidentaux, qui sont proches géographiquement, leurs entreprises finiront bien par saisir tout l'intérêt d'avoir de tels centres de production compétitifs à leurs portes, dotés d'une main-d'œuvre professionnelle, bon marché et d'une compétitivité prix imbattable. Le pouvoir à Ankara ne percevait alors les attaques répétées sur sa monnaie que comme autant de tentatives de faire renoncer le pays, la Turquie, en tant que puissance, à sa volonté d'instaurer ce nouveau modèle de développement. Les auteurs considèrent qu'il n'est pas possible de ramener cette volonté à une simple hérésie macroéconomique. Ils estiment qu'il y a une bonne part d'aventurisme, certes, mais que cela repose bel et bien sur une vision structurée. L'échéance, c'est la présidentielle de juin 2023. Il va y avoir aussi les législatives. Et si d'ici là, nous disait-il déjà il y a quelques mois, les résultats de cette politique à rebours ne se concrétisent pas, les experts du centre Qatari estiment qu'il ne sera alors pas difficile à un candidat rival de l'emporter avec un projet politique, des politiques économiques et monétaires orthodoxes.
D'accord, donc en gros on mise sur la dévaluation attractive et plus sur la dévaluation compétitive.
Exactement, bon. Ce nouveau modèle de développement,
exactement.
Version Recep Tayyip Erdogan.
Passionnant. L'immobilier chinois à la croisée des chemins, Benaouda.
Alors c'est une réflexion particulièrement fouillée, il faut la lire plusieurs fois pour en saisir les enjeux, d'un professeur d'urbanisme de l'université de Xiamen, province du Fujian.
Ouais.
C'est une traduction par l'universitaire David Hounby, qui est un universitaire canadien et qui publie une lettre en ligne qui s'appelle « Lire le rêve chinois » en anglais. Alors le sous-titre de ce texte, c'est « Fécondité, soins aux personnes âgées, emploi et planification urbaine ». Alors Zhao Yanjing situe son propos à l'intersection de l'urbanisme, de la démographie et de l'économie. Il considère qu'une planification urbaine novatrice doit être pensée en prenant en compte tout le lien dans la société chinoise contemporaine entre la fécondité individuelle et le vieillissement collectif. L'auteur se penche sur l'émergence de ce qu'il appelle des instruments financiers modernes qui ont commencé à collectiviser à partir de 1993 en Chine la couverture de la retraite. retraite, la couverture de la dépendance, en remplacement de la fonction originelle de la famille chinoise, nous dit-il. C'est cette sophistication financière nouvelle, selon lui, qui serait à l'origine du déclin démographique de son pays. Les gens ont été amenés, nous dit-il, à penser qu'ils peuvent maintenant prendre soin d'eux-mêmes en vieillissant, car ils ne dépendent plus de la génération suivante pour les soutenir. Oui. Pourtant, si vous choisissez de ne pas avoir d'enfants, nous dit-il, vous devrez malgré tout, je cite, planter vos baguettes dans le bol d'une famille qui, elle, a choisi d'avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que, quels que soient vos versements à la solidarité nationale, la majeure partie des prestations retraite dont vous allez bénéficier provient en réalité des impôts de la génération suivante. Une transaction entre passé et avenir, écrit-il, ce qui revient alors dans ce raisonnement à compter sur les enfants des autres, ceux que vous avez refusé d'avoir et d'élever, parce que pour le professeur Zhao Yangjing, le cash flow, je cite encore, les flux de trésorerie, ouais, entre cotisants et non cotisants, il faut bien que quelqu'un les produise, donc les enfants des autres. Aussi, dans cette société avec toujours moins d'enfants, de futurs cotisants chinois, la retraite anticipée doit être perçue, selon lui, comme une hérésie, comme un énorme gaspillage de capital social. Et plus le niveau d'éducation est élevé, plus ce gaspillage lui semble inacceptable.
Le nombre de travaux, quand même, au fil des semaines que vous nous présentez, Ben Aouda, sur tout ce que font les économistes et les chercheurs chinois, est quand même d'un niveau assez exceptionnel.
Et malheureusement, avec peu de relais en Europe.
Mais heureusement, vous êtes là, Ben Aouda. Allez, la feuille de route de l'Inde sur l'éthanol, eh bien, l'Inde ne la tient pas vraiment.
Oui, alors les décisions sur d'éventuelles restrictions d'exportation agricole de l'Inde sont actuellement scrutées du monde entier. Le monde a peur que l'Inde restreigne ses exportations de sucre, de blé, de maïs, de riz. Le gouvernement indien entend, lui, avancer ses plans en faveur de l'éthanol fabriqué à partir de la canne à sucre ou bien du maïs. L'essence devra en comporter 20% en 2025 plutôt qu'en 2030. Et ça a des conséquences très importantes. Alors, c'est d'abord destiné à réduire, il faut le dire, la facture d'importation pétrolière et à diminuer la pollution de l'air très grave en Inde. Mais ça va s'accompagner d'une remise en cause de certains grands équilibres de l'agriculture du pays, ce qui explique que cette étude d'un spécialiste australien des questions énergétiques indiennes et eu dernièrement un très grand écho dans les médias en Inde. Que nous dit Charles Waringham ? Il prévient que la politique pro-éthanol va avoir un impact sur l'utilisation de l'eau, sur les exportations de sucre, et puis même sur la sécurité alimentaire indienne, parce que des terres arables vont être détournées de leur fonction originelle. L'auteur propose de privilégier plutôt un usage des sols pour produire de l'énergie renouvelable, qui irait au développement du recours aux véhicules électriques en Inde. À l'appui de sa démonstration, il donne cette évaluation très frappante. Une année de circulation d'un modèle électrique en Inde requiert l'énergie d'un hectare au sol de panneaux solaires.
D'accord.
Tandis qu'une voiture à l'éthanol, donc à l'éthanol 20, la prochaine norme, aura besoin sur cette période de 187 hectares de maïs par an. Donc on voit le rapport de 187. Les surfaces additionnelles de bonnes terres qu'il va falloir trouver pour cultiver et pour aboutir à cet éthanol-là, ce sont 30 000 km². 30 000 km², c'est la superficie de la Belgique. L'expert soutient que même en tenant compte des pertes dues au transport d'électricité, à la recharge des batteries et au stockage sur le réseau national, le rapport se révélera nettement en faveur de la solution électrique plutôt que de la solution éthanol.
C'est imparable. Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un livre de patron, celui du président du Crédit Coopératif, Jérôme Sadier, qui vient de publier un petit livre. Alors, c'est aussi le président de SS France, Jérôme Sadier. C'est un livre tonique, très mobilisateur, qui nous dit comment fonctionnent les entreprises de l'ESS, des salariés, des patrons qui dont la première motivation n'est pas de gagner beaucoup d'argent, des salariés qui et des patrons qui cherchent à produire des choses utiles socialement. C'est des entreprises dans lesquelles les salariés ont du pouvoir, et donc c'est un apprentissage de la citoyenneté, de la délibération, du compromis. Et il dit, il ne faut pas qu'on le cache, il faut absolument que les entreprises de l'ESS, c'est quand même 15% de l'emploi privé en France, revendiquent cette autre façon de le faire. C'est une utopie capitaliste, mais incarnée, et on peut le faire au quotidien. C'est un texte très très mobilisateur et très intéressant de la part de Jérôme Sadier.
Parfait. Jean-Marc Daniel.
Alors moi, j'ai choisi la réédition d'une biographie de Michel Debré. Michel Debré, l'architecte du général,
ouais,
général de Gaulle, parce que d'abord, la première version avait paru en 2000, donc on a le temps de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque, de l'avoir perdue dans sa bibliothèque, et surtout, dans les corrections, les apports qui ont été faits, il y a toute la partie où Michel Debré est ministre. Avant, il y avait beaucoup sur Michel Debré, Premier ministre, ouais. Michel Debré autour du général de Gaulle, et notamment quand il est ministre de l'économie et des finances. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On a oublié qu'on voit en Michel Debré le constitutionnaliste, la Ve République, mais ça aussi était un grand ministre de l'économie et des finances, et le livre permet de le redécouvrir.
Formidable. Allez, moi je termine avec un livre dont je ne m'étonne même que Christian ne l'ait pas choisi pour en parler, c'est le livre Cinéma et démocratie.
Ah bah oui.
Cinéma et démocratie, Jean-Michel Arnaud aux éditions Télémaque. Jean-Michel Arnaud, c'est le président du Palais des Festivals à Cannes. Il dirige aussi le projet de musée international du cinéma et du festival de Cannes. Et c'est un plaidoyer social pour le cinéma. Il dit vraiment, alors il cite la phrase de Chaplin, hein, le cinéma c'est la démocratie de l'art, et il dit, attendez, on est en train de faire du cinéma un bien non essentiel, alors que c'est faux. Le cinéma est un bien essentiel, il n'y a pas de phénomène culturel plus populaire que le cinéma. J'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça bien, et avant que Christian ne le prenne, je vous le suggère. Ben, voilà.
Si l'éditeur me l'avait envoyé, j'en aurais parlé.
Bon.
Je vais recommander un film, c'est La maman et la putain qu'on vient de ressortir.
Tout à fait.
Un film de Jean Eustache qui était invisible, qu'on ne pouvait pas voir depuis très longtemps, qui est un véritable chef-d'œuvre des années 70. Et Jean Eustache est de Pessac, à côté de
Bordeaux, la ville de Jean-Marc Daniel. Je me disais, mais pourquoi il nous raconte ça? On s'arrête, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.